d'emploi. Mode d'emploi.
Vous êtes sur Fréquence Pareil Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et aujourd'hui, vendredi 12 mars, nous recevons Mathilde Larère pour continuer sur l'anniversaire de la Commune qui s'est passée à Paris et aussi à Saint-Denis. Et Mathilde Larère va nous parler non pas des événements de la Commune, mais de l'héritage de la Commune, de la postérité. Mais avant de lui donner la parole, nous allons commencer, comme d'habitude, par les chroniques d'actualité de Jean-Marc. Et la première prise de parole de Jean-Marc sera sur le vaccin, mais plutôt sur le passeport vaccinal.
Alors, excusez-moi, il y a une petite coupure. Espèces d'animaux en voie de disparition. Donc, on ne tirera jamais assez la sonnette d'alarme sur ce phénomène qui s'aggrave de décennie en décennie à cause de l'activité humaine, comme du réchauffement climatique. Rhinocéros, lémuriens, tigres, éléphants, gorilles, requins, sans oublier la décimation des insectes comme des micro-organismes. L'actualité nous donne un exemple de plus de ce massacre. Un animal français qui est en voie de disparition, à tel point qu'une partie de nos hommes politiques, pourtant peu sensibles d'habitude à ces questions, se sont insurgés la semaine dernière. Trouvera-t-on encore dans quelques années des présidents de la République du type Homo Sarkozensis, nous a larmoyer Christian Estrosi, par exemple. Pour ma part, cette espèce-là pourrait bien disparaître sans que cela me choque.
On l'avait vu venir quand même, ta blague là. Alors après les animaux en voie de disparition, nous allons maintenant parler des passeports vaccinaux.
Alors là, c'est beaucoup plus sérieux. C'est le résumé d'un article d'une dame qui s'appelle Pascale Brudon et qui travaille pour l'OMS. Et elle nous dit que le passeport vaccinal, c'est une fausse bonne idée ou carrément une mauvaise idée. Elle nous dit que il serait censé faciliter la vie pour voyager ou pouvoir entrer dans certains lieux publics. Le passeport vaccinal est donc a priori une bonne idée, sauf qu'il serait surtout source d'inégalité sans être forcément protecteur d'un point de vue sanitaire. Quelle certitude ? Premièrement, nous manquons de données scientifiques, comme pour tout le reste, suffisamment solides sur le rôle des infections et des vaccins dans l'immunité. Nous ignorons encore le degré d'immunité future donné par les vaccins et la durée de cette immunité. Nous ne savons pas si les personnes qui ont guéri de la COVID-19 et qui ont des anticorps sont protégées contre une seconde infection. Donc beaucoup de points d'interrogation déjà pour ce qu'on mettrait dans ce passeport vaccinal. Deuxième point, elle nous dit que ce sera une source d'inégalité, puisque la discrimination et l'exclusion que cela va entraîner avec l'usage de ces passeports sont des questions éthiques importantes et ne peuvent pas être sous-estimées. Quelques personnes, principalement originaires de pays riches, comme d'habitude, pourront voyager pour les affaires et les loisirs comme au bon vieux temps, alors que la grande majorité de la population mondiale ne sera pas vaccinée et ne pourra donc, elle, plus circuler du tout. Tant que les vaccins ne seront pas disponibles dans le monde entier, ces passeports ne feront qu'augmenter les inégalités. Elle souligne ensuite des problèmes administratifs nombreux et variés, comme par exemple des problèmes qui ont trait au passeport. Qui aurait droit à ce passeport ? Qui évaluera le dépistage des anticorps et la vaccination ? Qu'en est-il des jeunes qui seront dans la plupart des pays les derniers à se faire vacciner, car la plupart d'entre eux sont considérés comme étant moins à risque ? Quid des personnes qui, pour une raison ou une autre, ne souhaitent pas se faire vacciner ? Qui s'assurera que le passeport vaccinal provient d'une source fiable et que les informations qu'il contient seront valides ? Comment les pays reconnaîtront-ils mutuellement le document ? Comment garantir que les gens n'obtiennent pas ces documents par la corruption et les malversations ? Le passeport vaccinal a donc bien l'air d'être le type même de l'idée faussement logique et faussement pratique. Peut-être faudra-t-il y réfléchir à deux fois avant de se précipiter, encore une fois, vers une solution aussi miraculeuse qu'illusoire.
Alors, le vaccin existe partout, mais pas au Brésil, enfin, surtout si on en croit son fameux président Bolsonaro. Alors, justement, Gaël, à toi de prendre la parole pour ta chronique, et en te posant cette question très simple. Comment va le Brésil ?
Mal, mais peut-être bien demain. Alors, lundi, le tribunal suprême fédéral du Brésil a annulé l'ensemble des condamnations qui pesaient sur Lula, qui retrouve donc tous ses droits politiques. Et ça ouvre un grand espoir pour la gauche, dont Lula reste le champion, un espoir de battre Bolsonaro en 2022. Et à cette occasion, je vous propose un bilan à mi-mandat de ce Trump tropical. Ce bilan, c'est celui du baromètre d'alerte sur la situation des droits humains au Brésil, qui a été publié par la coalition Solidarité Brésil. C'est une coalition fondée en décembre 2018, juste après l'élection de Bolsonaro, par des organisations françaises de solidarité internationale qui ont des liens avec le Brésil. Il y a un site web que vous pouvez consulter, c'est lebrésilresiste.org, tout attaché. Et cette coalition publie donc un baromètre annuel autour de 11 thèmes. Alors, premier thème, les violences policières. En 2020, le nombre de personnes tuées par la police au Brésil a augmenté de 6% par rapport à 2019. Et on tue de préférence des jeunes noirs des favelas. Les noirs ont 2,8 fois plus de chances que les blancs de se faire tuer par un flic. Précisons que la police et l'armée n'ont pas été réformées après la fin de la dictature militaire. Donc, ils travaillent à l'ancienne et les discours de Bolsonaro libèrent les énergies. Les habitants des favelas de Rio ont monté des actions en justice avec une victoire. Le tribunal suprême fédéral a suspendu les actions policières pendant la pandémie. Deuxième thème, les femmes. On connaît les discours sexistes de Bolsonaro qui ont libéré aussi la violence sexiste. En 2019, on a eu une augmentation de 7% des féminicides, surtout des femmes noires. En 2020, petite forme, plus de 2% seulement par rapport à 2019. Mais l'explication, ce serait plutôt un manque, enfin, des données sous-estimées à cause de la pandémie qui a rendu plus difficile la collecte des données. Troisième thème, les personnes LGBTQI+. Les assassinats de personnes trans ont augmenté de 47% en 2020. Le Brésil, c'est l'un des pays où on tue le plus de personnes LGBTQI+, surtout si elles sont noires. Et la moitié de ces personnes dit avoir subi des violences depuis les élections de 2018. Quatrième thème, le travail. Alors là, le travail sur le travail avait été bien préparé par le gouvernement Temer, qui était le gouvernement intérimaire de droite avant Bolsonaro, qui a profondément modifié le droit du travail en 2017. Et ça a aggravé la précarité et réduit les droits des travailleurs. Aujourd'hui, 40% de la population brésilienne active travaille dans le secteur informel, donc très touchée par la pandémie. Et le revenu moyen a baissé de 27,9% pour les 50% les plus pauvres avec la pandémie, contre 17,5% pour les 10% les plus riches. Donc, tout le monde a été touché, mais surtout les pauvres. Cinquième thème, la faim. Alors, la faim, c'était même plus un problème après la présidence de Lula et de Dilma Rousseff, puisque Lula avait lancé plusieurs programmes sociaux qui avaient sorti le Brésil de la faim. Et aujourd'hui, après Temer plus Bolsonaro, la faim revient. Ces deux présidents ont cessé tous les programmes lancés par Lula. Ils ont priorisé l'agrobusiness au détriment de l'agriculture vivrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 6,6% de la population brésilienne souffre de la faim et plus de 20% de la population est en état d'insécurité alimentaire. Sixième thème, la terre. Une des premières mesures de Bolsonaro, ça a été de paralyser la réforme agraire qui consistait à attribuer des terres non productives à des paysans sans terre. Aujourd'hui, des gros propriétaires envahissent des territoires communautaires et la police laisse faire. Les violences se multiplient en milieu rural. Les conflits liés à la terre ont augmenté de 23% entre 2018 et 2019. Et en 2020, on a compté 18 assassinats de leaders indigènes ou paysans. Septième thème, les peuples autochtones, qui ont une place particulière au Brésil, garantie par la Constitution de 1988, après la dictature. Or, il y a une pression très forte de l'agro-industrie et de l'industrie minière sur les territoires autochtones, qui représentent une partie assez importante du territoire. Les discours anti-indiens de Bolsonaro encouragent les invasions de ces territoires par des firmes et l'exploitation illégale des ressources. Les invasions de territoires autochtones ont augmenté de 135% entre 2018 et 2019. Il y avait, depuis la présidence de Lula surtout, un processus de démarcation des territoires indigènes pour les protéger. Ce processus a été suspendu pour un bon nombre de ces territoires. Et les territoires qui avaient été démarqués, bien cette démarcation est remise en cause aujourd'hui. Huitième thème, l'environnement. Le modèle de développement économique du Brésil, il est fondé sur l'agrobusiness, les mines, l'extraction d'hydrocarbures et les grands projets hydroélectriques. Sur ces sujets, le Parti des travailleurs n'a pas été exemplaire, Mais Bolsonaro, c'est encore pire. Lui, il démantèle toutes les politiques environnementales. Le rythme de déforestation a augmenté de 70% par rapport à la moyenne des années précédentes. L'utilisation de produits phytosanitaires explose. Le Brésil, aujourd'hui, est le premier pays consommateur de pesticides par hectare. Et entre janvier 2019 et juin 2020, 674 nouveaux pesticides ont été autorisés sur le marché, la plupart étant dangereux pour l'environnement. Alors les gens se battent contre les agressions environnementales, mais à leur risque et péril, puisque le Brésil, c'est le troisième pays le plus meurtrier du monde pour les activistes environnementaux. En matière d'éducation, neuvième thème, il y a à la fois une guerre culturelle qui consiste à démarxiser l'enseignement, comme ils disent, remettre en cause les sciences humaines et sociales, attaquer les libertés académiques, et une guerre aussi néolibérale qui consiste à faire des coupes budgétaires. Par exemple, dans le supérieur, le budget a baissé de 18% en 2021. Bref, un modèle pour notre ministre Frédéric Vidal. Dixième thème, la violence politique. En 2019, il y a eu trois fois plus d'agressions et de menaces qu'en 2016 sur les élus. Ça touche pas n'importe quel élu. C'est les hommes vieux, hétéros, blancs sont pas trop touchés. Ça touche surtout des femmes noires ou autochtones et des personnes LGBTQI+. Malgré ça, aux élections municipales de 2020, eh bien, les personnes visées ne se sont pas démontées. Il y a eu un nombre record de femmes candidates. Et pour la première fois, il y a eu plus de candidats noirs que de candidats blancs. Et les candidatures de personnes autochtones ont augmenté de 26%. Enfin, dernier thème, la liberté d'expression. Être journaliste au Brésil, ça peut être mortel. Et Jair Bolsonaro alimente cette violence. En 2020, on a compté une attaque par jour en moyenne de Bolsonaro contre la presse. Et en 2019, on a recensé 4 millions d'attaques en ligne contre les journalistes, c'est-à-dire en moyenne 7 attaques par minute. Alors, ce baromètre confirme que les violences, les violations des droits et les inégalités ne font qu'augmenter au Brésil, en particulier contre les populations historiquement les plus exclues, c'est-à-dire les Indiens, les pauvres, les LGBT, les femmes, les Noirs. Mais ce baromètre met aussi en avant des exemples de résistance que je n'ai pas toutes décrites, qui montrent une société civile très engagée, très mobilisée et qui ne baisse pas les bras et qui se mobilise avec une grande créativité. Ça aboutit à des petites victoires au Parlement, que Bolsonaro ne contrôle pas entièrement, devant la justice et sur le terrain. Et donc, si Lula gagne en 2022, eh bien, on pourra dire que cette victoire est déjà en préparation.
Aucun lien entre le Brésil et la France, voyons, tu fais une mauvaise foi, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, l'émission ne parle pas d'actualité brésilienne ou française, mais du
Si,
passé.
si, si, il y a un petit rapport. Il y a un petit rapport, c'est aujourd'hui le Conseil de Paris qui vient de voter une place Claude Coasguen à Paris. Merci, merci à Hidalgo d'avoir voté pour ce vieux fumier fasciste.
C'est assez impressionnant à entendre, oui. Alors bon, nous sommes dans l'héritage historique. Je ne sais pas si j'aurais aimé que ce soit un personnage qui disparaisse de l'histoire, mais l'histoire, c'est souvent un héritage bien complexe. On va d'ailleurs parler celui de la commune qui n'est pas toujours abordé, selon tous les angles dans les manuels d'histoire de nos lycées. Et on va en parler dans 2 minutes. Mais avant, pour se mettre justement dans l'ambiance, nous allons écouter un album du centenaire de la Commune, car là nous allons en 2021 fêter le 150e anniversaire de la Commune. Nous écoutons Francesca Soleville qui nous chante bien sûr que la Commune, elle n'est pas morte.
Tué à coups de chasse-pot, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre.
Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu
que la commune n'est pas morte.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et notre invitée du jour, Mathilde Larère, qui est parmi nous. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Et nous allons parler avec toi, car tu es historienne, très exactement enseignante-chercheuse à l'université Gustave Eiffel. Alors, je te présente en quelques mots. Tu travailles principalement sur l'histoire politique et sociale du 19e et sur la question de citoyenneté. Alors, ton propos, c'est de dire que tu vois ces citoyens en armes et en plumes. En armes, tu as par exemple étudié la garde nationale, qui est entre autres une force de l'ordre citoyenne, et en plumes, avec des travaux sur les pétitions qui ont été envoyées par des citoyens jusqu'aux chambres parlementaires. Tu t'intéresses beaucoup à l'éducation populaire, c'est un mot qu'on aime beaucoup par ici, à Fréquence Paris Pluriel et à Attac, les moyens de transmettre, et tu utilises les moyens modernes, vu qu'on peut te trouver sur Twitter, on peut te trouver un temps sur Media Park avec l'émission de les tribunes pardon, et les chroniques de Laurence de Coq, ou même sur l'émission Arrêt sur Image. Dans des revues. Tu as des ouvrages de vulgarisation scientifique, alors on va faire un peu la publicité de ces deux ouvrages, un almanach révolutionnaire sur l'évolution du 19e et 20e, et aussi un ouvrage sur les luttes des femmes pour leurs droits en France de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Rage Against the Machisme. Voilà, alors tu vas évidemment utiliser tout ton savoir pour nous expliquer, et je laisse la parole à Jean-Marc, parce que tu vas nous parler de l'héritage de la postérité de la Commune. À toi Jean-Marc.
Alors, bonsoir Mathilde. Comme tu as travaillé aussi sur les notions d'ordre et de désordre, peut-être pourrais-tu nous donner une vision de la Commune depuis ce prisme, puisque en effet, très souvent, à droite, la Commune est présentée comme un vaste chaos, alors qu'à gauche, évidemment, la vision est différente. Quelle est en fait la réalité de l'ordre ou du désordre dans cette Commune ?
Alors, je vais commencer par une anecdote que raconte l'anarchiste Gustave Lefrançais. Il raconte ça dans ses mémoires, qui sont d'ailleurs une super source sur cette période. Et on est juste après la Commune, dans les moments d'effervescence et de joie qui suivent le 18 mars et le départ de l'armée de Versailles. Et Gustave Lefrançais croise le journaliste socialiste Vermorel. Et le socialiste Vermorel lui dit... alors je vous cite pas exactement les mots de Gustave Lefrançais, hein, je les adapte au vocabulaire contemporain. En gros, salut copain, tu sais quoi, je vais faire paraître un journal dès ce soir, est-ce que tu veux en être ? Alors Gustave lui dit, écoute, je suis pas journaliste, oulala, faut du talon, moi non, bon, mais c'est quoi le titre de votre journal ? Et Vermorel lui dit, l'ordre. Et l'autre dit, mais que le diable vous emporte mon cher, mais vous êtes toujours le même, choisir un tel titre, mais n'importe quoi. Et Vermorel lui dit « Mais oui, mais moi j'entends prouver aux Parisiens que nous représentons l'ordre. » Et Gustave Lefrançais, en bon anarchiste, lui dit « Oh, va au diable, ton journal sera mis en pièces sans qu'on se donne la peine de le lire. » Bon, il le fera. Et d'autres journaux d'ailleurs de la Commune s'appelleront l'ordre. Et d'ailleurs, les journaux de la Commune feront justement attention à casser l'image négative que donnent les journaux versaillais qui ont tendance à... comme tu le disais justement, Jean-Marc, avoir dans la Commune chaos, violence, débauche, sexe, beuverie, et j'en passe, et des meilleurs. Parce qu'en fait, ça, c'est une vision classique des contre-révolutionnaires, s'associer à l'ordre et associer la révolution au désordre ou à l'anarchie, ce qui pour eux est la même chose. Et ce qui ne correspond pas à la réalité, parce qu'une révolution, et la Commune comme les autres, c'est le renversement d'un ordre, ça c'est sûr, mais c'est pour y substituer un ordre plus juste. Donc déjà, si on n'est pas dans l'ordre public, mais si on parle de l'ordre social, de l'ordre politique, voire de l'ordre des sexes, la Commune, elle renverse un ordre social, politique, économique, et elle essaie de renverser un ordre des sexes, mais pour y substituer un autre ordre, considéré comme plus juste, considéré comme... comme plus juste, mais néanmoins considéré comme un ordre. On ne trouve absolument pas ça. Et si la question, c'est plus sur l'ordre, tout simplement l'ordre public, la Commune y a veillé, et a veillé à toutes les échelles, y a veillé à l'échelle communale, y a veillé à l'échelle des quartiers. Je veux dire, pendant la Commune, le pain a été livré, les crimes ont été poursuivis, les gens trop justement saouls et qui pouvaient troubler l'ordre public ont été arrêtés. Et donc, il y a eu un ordre pendant la Commune et c'est une vision profondément contre-révolutionnaire que de toujours associer soit la Commune, soit la Révolution en général au désordre. Toutes les révolutions sont soucieuses d'ordre. Et preuve en est d'ailleurs qu'un des pouvoirs importants de la Commune, c'est les fédérés, donc c'est la garde nationale, et la garde nationale est une force de l'ordre. Donc elle a veillé, comme elle avait veillé d'ailleurs tout au long du siècle, à assurer l'ordre public et la tranquillité dans les rues.
Il y a le cas de Raoul Rigaud aussi, qui est une sorte de ministre de l'Intérieur.
Oui, oui, oui. Non, mais de toute façon, c'est normal. Il n'y a aucune raison. Le désordre ne serait pas profitable à la commune. De toute façon, s'ils veulent instaurer leur nouvel ordre social, politique, économique, juridique, institutionnel juste, il faut que ça fonctionne à l'intérieur. Il faut que le ravitaillement arrive, que les rues soient propres et nettoyées, qu'il n'y ait pas de crimes et de délits, qu'il n'y ait pas de violence. Donc, de toute façon, c'est quelque part, c'est même absurde d'imaginer un pouvoir futil révolutionnaire qui ait envie que ça tombe complètement dans le désordre et que ça parte à volo.
Et quand on dit ordre, on parle là de l'ordre policier, c'est-à-dire réguler le crime, réguler la rue, mais pas forcément, j'imagine, d'un ordre plus autoritaire sur le droit d'expression.
Bien sûr, c'est un ordre au sens, oui, voilà, c'est la police, mais au sens originel, c'est-à-dire effectivement, il n'y a pas plus de crimes pendant la commune, il n'y a pas plus de gens qui se font détrousser, plutôt moins, il n'y a pas... Donc là, il y a un souci. De toute façon, c'est une forme d'État, donc il veille à l'ordre public comme n'importe quel État, avec en plus les moyens de le faire, c'est-à-dire tout à la fois une force de l'ordre qui est communarde, la garde nationale, les fédérés, et au niveau des quartiers, une organisation des quartiers pour assurer le bon fonctionnement, l'ordre, le ravitaillement et la poursuite des délits s'il y en a. Mais évidemment, ce n'est pas ça qu'on trouve dans les journaux versaillais. On a l'impression que Paris est dans une espèce de d'anarchie, désordre, et vous disiez, ivresse. À les lire, on a l'impression que tout est à feu et à sang du 18 mars à la semaine sanglante.
Ah ben, il faut faire peur aux bourgeois, de toute façon. Alors, donc, l'ordre est un moyen...
Oui, pardon, je t'ai coupé.
L'ordre, en fait, est un moyen pour la commune de pouvoir commencer à mettre en place des réformes et justement des idées plus justes. Et justement, ça fait la liaison avec la deuxième question qu'on voulait te poser. Est-ce que tu pourrais nous donner un bilan des réformes, des inventions faites par la commune en matière d'organisation sociale, d'égalité, de démocratie, d'égalité des sexes, puisque en l'espace de très peu de jours, finalement, la commune a inventé presque tout ce qui va se développer comme idéologie au XXe siècle?
Alors, je ne dirais pas forcément qu'elle l'invente, parce que, évidemment, tout ça s'inscrit dans une histoire plus longue. Il y a des héritages. Ce qu'elle met en place a déjà été pensé, conceptualisé, parfois même appliqué par les démocrates sociaux avant, voire ou par les socialistes. Donc, ce n'est pas une invention tout à fait. Ce qu'il y a, c'est qu'ils vont avoir effectivement 72 jours pour le mettre en place. Mais il n'y a rien de... Ce n'est pas complètement neuf, hein. Les idées de la commune, elles plongent leurs racines avec deux grandes racines. Une première racine qui est celle de la démocratie sociale, qui s'enfonce jusqu'à 1793, a eu de très très beaux rameaux en 1848, a pu s'exprimer dans la clandestinité pendant le Second Empire et donc s'applique là. Et une deuxième racine qui est plus socialiste, plus internationaliste, plus proudhonienne, donc on peut dire anarchiste, mais c'est pas, j'utiliserai pas forcément le terme d'invention. Alors pour savoir ce qui a été fait, alors ça, je vais faire un peu une liste, hein, mais c'est difficile de faire autrement. Bon, d'abord, il y a des mesures qui sont prises immédiatement parce qu'elles sont considérées comme immédiatement nécessaires. Soit immédiatement nécessaire parce que la situation sociale est très difficile, soit immédiatement nécessaire parce qu'il fallait absolument corriger tout de suite un certain nombre de choses jugées profondément injustes. Alors déjà, on pourra évoquer le fait que la commune commence tout de suite par revenir sur les mesures qu'avait pris Versailles le 10 mars et qui étaient des mesures injustes. Versailles le 10 mars, donc c'est le moment d'ailleurs où l'Assemblée s'installe à Versailles, avait levé le moratoire des loyers, le moratoire des dettes des commerçants. Et c'est ce qui d'ailleurs avait fait monter la colère dans Paris, parce que lever ce moratoire qui était en place depuis le siège, condamner tout un tas de commerçants et tout un tas de Parisiens et de Parisiennes à la misère. Et immédiatement, une des premières mesures que prend la commune, c'est de rétablir ce moratoire des dettes et des commerçants, comme de rétablir ce qui aussi avait été supprimé le 10 mars par l'Assemblée de Versailles et qui est donc rétabli, la solde des gardes nationaux. Ils se sont resoldés, mais parce que ça leur permettait de survivre hein, dans une ville qui s'était quand même bouffé le siège avant. Donc, qu'à le dire bouffé, vu qu'ils n'avaient pas bouffé, justement. Mais donc, il y a cette mesure. Autre mesure à la fois importante et en même temps, on peut dire timide, la possibilité pour tous les Parisiens et les Parisiennes de récupérer au Mont-de-Piété tous les objets de moins de 20 francs. Bon, quand on sait que le Mont-de-Piété est important dans les économies populaires et dans les solutions qu'essaient de trouver ceux qui sont facilement au bord de la misère et qui manquent de pain avant la fin du mois, récupérer les objets de moins de 20 francs, c'est-à-dire sans avoir à payer 20 francs pour récupérer leurs objets, il faut savoir que c'est souvent leur matelas, hein, par exemple, ou leur casserole pour faire à bouffer, donc c'était pas mal. Ils auraient pu mettre plus que 20 francs, mais bon, ils sont restés à 20 francs. Réquisition des logements vacants. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient plus de logements parce qu'il y avait eu les bombardements à cause du siège. Et donc, les logements vacants, parce que vous pensez bien qu'au début de la commune, et même à Paris, il y a tout un tas de Parisiens riches qui s'étaient tirés, vite fait, bien fait. Et donc, il y avait des logements vides. Et donc, on les réquisitionne pour loger ceux qui n'ont plus de logements au début de mars, enfin en mars, avril. Après, il y a des mesures pour essayer de mettre fin à des injustices dans le monde du travail. Abolition du travail de nuit pour les boulangers, par exemple. Interdiction des amendes et des retenues sur salaire ou traitement dans le monde de l'industrie. Il y a aussi des mesures anticléricales. Alors, je t'explique parce que l'Église s'était alliée avec l'Empire et que donc les républicains les plus radicaux étaient... en 71, profondément anticléricaux, ce qu'ils n'avaient pas été, par exemple, en 1848. Donc, on supprime le budget du culte, on nationalise les biens religieux et on proclame la séparation de l'Église et de l'État. On abolit aussi la conscription. Il faudrait que je détaille un peu, mais en gros, c'était une armée de conscription qui était égale parce que c'était essentiellement les classes populaires qui embauchaient. Et l'armée de conscription, donc elle était très mal vue par les républicains et on met en place un service militaire universel. Le 16 avril, on réquisitionne les ateliers abandonnés par les patrons et on décide de les donner en autogestion aux ouvriers. Alors, ce décret des ateliers, il est super important. Dans le fait qu'on donne les ateliers réquisitionnés en autogestion aux ouvriers, on est vraiment dans l'influence des anarchistes français. Mais on pourra dire qu'à nouveau, c'est assez typique parce que ce ne sont que les ateliers abandonnés par les patrons et pas tous les ateliers en propriété capitaliste qui sont réquisitionnés. Les actes notariaux sont désormais gratuits. Et puis après, il y a des mesures aussi symboliques. Le drapeau rouge est adopté, le calendrier républicain est remis en vigueur. Il y a un message, alors c'est peut-être parce que je vais... Non, c'est... Ouais, voilà, ok, donc c'est bon. Ensuite, la commune a essayé de profondément réorganiser la société et l'État. Donc là, ce dont je vais vous parler, c'est des mesures qu'elle a voulu prendre, mais qu'elle n'a pas eu le temps de mettre en place. Mais néanmoins, elles font partie de l'héritage de la commune. On ne peut pas les écarter. Décision selon laquelle la justice sera désormais gratuite et rendue par des juges élus. Décision que l'école sera désormais gratuite, laïque et obligatoire. Et ce sera pour les filles comme pour les garçons. Décision que l'on créera un enseignement professionnel. Et ce, pour les hommes comme pour les femmes. Et c'est de réfléchir à une république plus démocratique, avec un contrôle des élus par les électeurs. L'abolition de la prostitution. Là aussi, ça relève de la question d'ordre, on pourrait dire. Toute une réflexion sur comment aider les ouvrières, et notamment en mettant en place des crèches pour qu'elles puissent y confier leurs enfants. Réflexion sur l'égalité des salaires femmes-hommes appliquée pour certains salaires, notamment ceux des institutrices. Reconnaissance, alors là, ça, j'aurais dû le mettre avant parce que ça a été mis en place. La commune est le régime qui met en place, qui reconnaît qu'une femme non mariée a autant de droits qu'une femme mariée. C'était pour les, les compagnes de gardes nationaux qui seraient blessées, eh bien, elles touchaient la pension, qu'elles soient mariées ou pas. C'est hyper important à l'époque hein, de reconnaître ça, parce que dans le monde ouvrier, la plupart des gens sont en concubinage. Droit des enfants illégitimes. Donc, pour résumer, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, il y a un certain nombre de mesures féministes, vous l'avez vu, mais il en manque. Hein. Le vote, non. Ils n'ont pas donné le droit de vote aux femmes. Il y a un certain nombre de freins. Ce sont plus des mesures et des projets de la racine démocrate sociale, montagnarde, 93-48, hein, plutôt que des projets vraiment socialistes, hein, au sens que le socialisme avait à l'époque. Hein. Même le décret des ateliers mis en valeur par Marx, finalement, est assez en deçà hein, de ce que pouvaient demander les internationalistes à l'époque. Donc, on est plus proche de l'esprit de février 48.
Ça ressemble plus à des mesures pratiques. Ça ressemble plus à des mesures pratiques de bon sens qu'à des mesures marquées par une idéologie particulière, en fait.
Sauf sur école gratuite et obligatoire, séparation d'Église et de l'État, justice gratuite et rendue par des juges élus, ça, on est plus dans des idées plus générales. Mais sinon, il y a beaucoup de mesures pratiques parce que voilà, ils se retrouvaient avec une ville dans un état de misère important que la guerre et le siège n'avaient fait qu'accroître et il fallait absolument régler ces c'est cette situation absolument terrible pour une grande partie des Parisiens et des Parisiennes. Et puis après, ce qu'il y a, c'est que bon, ben voilà, la commune est en guerre hein, très vite. Hein, et la guerre, d'abord, mobilise énormément le conseil de la commune, qui passe un temps fou à essayer de discuter de ces questions. La guerre divise aussi, un effet de division de la commune, ce qui n'a pas aidé à réformer sereinement et au bout d'un moment, de toute façon, toute l'énergie de la commune est tendue vers l'essai d'évitement de la répression et puis une fois que la répression commence, la lutte quoi.
Ok, ben on va faire une petite pause musicale et on reprendra après avec peut-être plus la vision de ce qu'on a aujourd'hui de la commune et de tout son apport dans une deuxième partie. Et là, tu as parlé d'un des symboles de la commune, de remplacer le drapeau tricolore par le drapeau rouge que va nous chanter encore une fois Francesca Soléville.
Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré. Notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier.
Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires et des sans-voix, qui est animée aujourd'hui par l'équipe d'Attaque et du journal Le Piaf. Et nous recevons comme invité Mathilde Larère, enseignante-chercheuse à l'université Gustave Eiffel, historienne qui a travaillé, entre autres, sur l'histoire sociale du XIXe siècle, et en particulier, nous la recevons pour l'histoire de la Commune. Dans une première partie, elle nous a expliqué un peu le bilan des réformes et aussi de celles que la Commune n'a pas eu le temps de mettre en œuvre. Et aujourd'hui, dans cette deuxième partie, on va passer à un autre sujet très proche, évidemment, c'est l'héritage, la postérité de toutes ces choses qui étaient beaucoup plus formelles qu'avant. Parce que lorsqu'il s'agit de la Commune, les avis sont très, on dit, tranchés. Hein, mais au-delà de l'approche très politique, on dit parfois réactionnaire, contre-révolutionnaire, et on a aussi un certain romantisme, surtout à gauche ou à l'extrême-gauche, qui s'attache à la représentation de la Commune. Alors, quel est le bilan, quel est l'héritage réel, historique ou même constitutionnel de la Commune?
Alors, c'est difficile de répondre. Je vais faire une réponse en historienne, donc avec une approche temporelle. Vous ne voulez pas, c'est mon réflexe professionnel. Bah, le bilan dans les mois et les quelques années qui suivent est évidemment dramatique, hein, puisque d'abord un bilan humain terrible, hein, difficile à chiffrer, avec des querelles d'historiens régulièrement ranimées d'ailleurs, soit à la hausse, soit à la baisse. Le dernier ouvrage sur la semaine sanglante de Michel Audin remontant le bilan qui avait été abaissé par les travaux suite aux travaux de Tombes. Enfin bon, un bilan humain terrible, hein, hein, c'est de toute façon, que l'on soit autour de 8 000 morts ou de 10, 12 000 morts, voire de 15 000 morts, on est dans le pire massacre de l'histoire du 19e siècle. Une catastrophe pour le mouvement ouvrier français, qui est, dont les militants sont soit morts, soit en exil, soit en, enfin, soit en prison. Le mouvement ouvrier français va mettre presque une décennie, hein, à s'en sortir, avec comme effet d'ailleurs que, alors qu'il était dominé par les Proudhoniens avant la Commune, ceux qui prendront plus le leadership, j'aime pas trop ce mot, mais je ne trouve rien d'autre là tout de suite, ce sont plutôt les marxistes, hein, donc ça va changer la nature du mouvement ouvrier français. Et ça, c'est un bilan intéressant. Et par ailleurs, donc voilà, déjà voir ça, et puis l'ordre moral, la fin de la liberté de la presse, tout un tas de mesures de nature proprement dictatoriale, la construction du Sacré-Cœur en expiation à la Commune. Voilà, bon, donc si on regarde le bilan dans les années qui suivent, c'est pas brillant, brillant. Alors après, la question qui est débattue par les historiens est de savoir si la Commune, avec sa répression, n'aurait pas finalement servi l'installation de la République. C'est un débat difficile qui, à mon avis, y a une réponse qui doit être mesurée, c'est-à-dire que certes, c'est la République, c'est la République qui était proclamée, l'Assemblée qui a écrasé la Commune était dans un régime normalement républicain. Reste que la répression de la Commune a été associée pour une partie des gens aux monarchistes et aux excès des monarchistes. Et donc, il y a eu aussi comme effet une envie de mettre fin à ces excès, de ne pas se retrouver à ces excès. Et ça a pu desservir les monarchistes. Et dans le même temps, parce qu'en fait, les choses ne sont jamais toutes noires et toutes blanches, hein, dans le même temps, le fait que la Commune ait été réprimée, fût-ce par ces violences, eh bien, ça a rassuré pas mal de gens sur la République. Parce que faut quand même ne pas oublier que pour tout un tas de gens, la République démocratique et sociale, hein, n'était pas l'horizon qu'ils avaient en tête. Ils préféraient une république plus modérée. Ils avaient peur des rouges, ils avaient peur des communeux, parce qu'ils craignaient qu'ils prennent leur propriété, leur maison, leur terre, leur petit lopin de terre. Et la répression de la Commune a pu, quelque part, rassurer notamment les classes rurales, les petits propriétaires ruraux. Tout ça fait que on trouve dans un certain nombre d'historiens, et je suis assez, même si je pense que c'est plus complexe, c'est pas, je suis aussi convaincue, quelque part, étonnamment, ça a pu servir l'installation de la République. Simplement, la République qui s'est installée n'est évidemment pas la République que souhaitait la Commune, n'est pas cette République démocratique et sociale, cette belle, comme on l'appelait. Mais c'est une république, hein, qui va s'installer et qui sera libérale, hein, qui se refusera donc à la politique sociale, et qui ne sera démocratique que du bout des doigts, mais néanmoins la République. Donc là, je suis dans un bilan à, on va dire, 10 ans. Une fois la République installée, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'au bout du compte, la République installée, la troisième, va en fait appliquer un certain nombre des mesures de la Commune. Elle va instaurer l'école gratuite, laïque et obligatoire pour les filles et les garçons. Elle va instaurer le service militaire obligatoire. Elle va prendre quelques mesures, d'ailleurs, en droit du travail et interdiction du travail de nuit. Elle va le faire et des choses qu'elle va reprendre. Pas de justice gratuite et rendue par des juges élus. Il y a des choses qui ne reviennent pas. Et pour l'ordre des sexes, on ne peut pas dire que ça a été très favorable, mais il y a des éléments qui sont repris. Et puis, en 1905, l'Église et l'État sont séparés comme les avaient séparés déjà la Commune. Pour autant, les Républicains ne reconnaîtront jamais cette maternité de la Commune dans les mesures que l'on associe maintenant à la République. Quand on dit aux gens école gratuite et obligatoire, ils pensent à Jules Ferry. Ouais, c'était une mesure de la Commune. Quand ils pensent service militaire, ils pensent Troisième République. Ouais, bah, c'était dans la commune. Quand ils pensent séparation de l'Église et de l'État, bah ouais, c'était dans la commune. Alors, c'était déjà avant, d'ailleurs, dans la Révolution française, en 1995. Donc voilà, donc, un bilan où finalement, il y a un certain nombre de choses que l'on reprend. Et preuve en est d'une certaine façon que quand la République s'installe et qu'elle vote l'amnistie des communards et que les communards et les communards de rentre, un grand nombre vont rejoindre et soutenir la Troisième République. Mais ce bilan, il n'est pas assumé par les Républicains. D'ailleurs, des Républicains qui, quand ils mettent en place l'enseignement de l'histoire, et qu'ils font donc cet enseignement de l'histoire à l'école, ils ne vont pas donner grand place à la commune, comme s'il y avait un remords, un regret peut-être, en tout cas un remords, peut-être une honte face à cette répression atroce. Donc ça, c'est pour le bilan politique, etc. C'est pas la même chose que la postérité. Ça, c'est une autre question, mais je crois que c'est la prochaine question.
Oui, c'est exactement la question que j'allais te poser, c'est-à-dire que quelle est la postérité de la commune, non pas à 10 ou 15 ans ou même 20 ans, mais sur la fin du siècle jusqu'à la guerre mondiale et tout au long du 20e siècle. Et pourquoi pas jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
Eh bien, en fait, je vais quand même aussi te parler de la postérité à 5, 10 ou 20 ans, parce que c'est intéressant. Pourquoi la commune a eu cette postérité ? C'est parce que immédiatement, en fait, ceux qui la soutenaient, ceux qui la portaient dans son cœur, dans leur cœur, ont veillé à la postérité de la commune. Immédiatement, un certain nombre de communeux et de communeuses ont veillé à faire l'histoire de la commune, parce qu'ils avaient super peur, hein, comme ils savaient bien que l'histoire est écrite par les vainqueurs, que l'histoire de la commune disparaisse. Et c'est Lisa Garay qui écrit son histoire de la commune, et c'est Louise Michel qui écrit son histoire de la commune. Et donc, il y a eu beaucoup d'écrits immédiatement, pour ne pas oublier la commune, pour qu'on ne l'oublie pas. Et pareil, Louise Michel a, et d'autres, hein, mais je parle de Louise Michel, ont profondément œuvré pour que l'on garde la mémoire de la commune, pour qu'il y ait sa postérité dès le début. Et il y a un lieu qui va évidemment permettre d'enraciner, d'ancrer cette postérité de la commune, c'est le mur des fédérés, où à partir de l'installation de la République, les anciens communeux et communeuses ou tout simplement ceux qui la soutiennent font la traditionnelle montée au mur, vont déposer des fleurs, des cerises en souvenir du chant du temps des cerises de Jean-Baptiste Clément, et il y a des conférences sur la commune et il y a des meetings sur la commune, et Louise Michel en est une infatigable actrice, hein. Il y a des associations qui sont là pour assurer la postérité. Donc déjà, les communards ont veillé à leur propre postérité. Et puis surtout, ce qui va permettre la postérité de la commune, c'est Marx, hein, parce que Marx écrit tout de suite après, et en fait, en le faisant, s'il a fait ça, c'est lui qui donne la postérité de la commune, au prix d'une erreur d'ailleurs, mais peu importe. Lorsqu'il écrit « Le Paris ouvrier avec sa commune », sera célébré à jamais comme le glorieux fourrier d'une société nouvelle. Et Engels dira plus tard que la commune, c'est la première dictature du prolétariat. Et en écrivant ça, parce que Marx dit ça, parce que Engels dit ça, voilà, la commune qui rentre dans la lecture de l'histoire et quelque part dans la lecture du futur, parce que glorieux fourrier d'une société nouvelle, dans les familles socialistes à l'époque, hein, ça sera repris par les communistes après. Et voilà, elle a l'onction du grand barbu, on va dire. Et à partir de là, ben voilà, que ce soit Lénine, Trotsky, vont réfléchir à la commune. Et la commune va devenir finalement cette image ensuite qui a été déconstruite, hein, par les travaux des historiens. Et le premier à le faire, c'est Jacques Rougerie. Mais cette idée que la commune serait l'aube des révolutions du XXe. Et dans ces révolutions du XXe qui commencent à se faire, c'est pour ça que les Russes et les bolcheviks sont importants, la commune est très présente. On sait que Trotsky disait « nous vengerons les morts de la commune ». On sait que Lénine, quand après la révolution d'octobre, il dépasse les 72 jours après cette révolution d'octobre, il sort du palais d'hiver et il se roule de joie dans la neige parce qu'il a dépassé le temps de la commune. qu'il y a tout un tas de rues, d'avenues au nom de la commune dans la Russie bolchevique soviétique, que la principale entreprise de chaussures de la Russie soviétique était et s'appelait la commune, ce qui fait que jusque dans les années 1990, tout un tas de Russes se sont baladés avec au pied des chaussures qui étaient des chaussures la commune de Paris. Enfin, on sait que le premier vol envoyé par les soviétiques qu'on avait dans ce vol habité avec le fameux chien avait un drapeau de la commune, drapeau qui avait été donné par le Parti communiste lors d'un anniversaire de la commune en 1927. Donc, et c'est très présent dans le monde communiste, et ce qui explique qu'en France, et dans d'autres pays, mais évidemment d'abord en France, la commune, la mémoire de la commune va être portée par le Parti communiste, qui va d'ailleurs essayer de s'en faire le principal entrepreneur de mémoire, voire s'en arroger le monopole, preuve en est qu'il rachète donc la concession qui est en face du mur des fédérés, et que maintenant, si vous allez au mur des fédérés, au Père Lachaise, eh bien, en face, vous avez toutes les tombes du Parti communiste. Hein. Vous avez d'abord un premier rang où c'est les tombes des communards, et puis ensuite, vous avez les tombes du Parti communiste. Donc, autre exemple, hein, Louise Michel, qui a été enterrée à Levallois, elle en avait fait la demande pour être enterrée auprès de sa mère et de Théophile Ferré. Les communistes déplacent sa tombe pour la mettre dans une partie du cimetière plus communiste. Donc, il y a tout ce moment, et les communistes ont joué un rôle profond pour entretenir cette postérité de la commune. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'histoire finit par un peu abîmer cette mainmise communiste sur la mémoire de la commune. Et à la fois l'histoire comme science et l'histoire comme événement qui se déroule, événement qui se déroule, parce que voilà, le PC, vous le savez, n'est pas dans les années 70 ce qu'il a pu être au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, donc, une perte d'électorat et d'importance politique du parti. Et puis parce que voilà, les historiens interviennent. Et en fait, Rougerie, qu'est-ce qu'il montre ? Rougerie, il montre que la commune, ce n'est pas du tout l'aube des révolutions du XXe. Hein. Ce n'est pas le glorieux fourrier d'une société nouvelle. C'est le crépuscule des révolutions du XIXe, ce que je vous disais tout à l'heure. Elle a beaucoup plus ses racines dans le passé qu'elle ne tend ses branches vers le futur, hein, la commune. Et donc, ça va affaiblir à un moment la postérité, mais là-dessus, pof, relais par les milieux plus libertaires, plus anarchistes, qui n'avaient jamais complètement lâché la postérité de la commune, mais qui la reprennent, et qui peuvent d'autant plus la reprendre que, comme la commune est elle-même un kaléidoscope, elle est elle-même pleine d'idées différentes, eh bien, sa mémoire peut être polyphonique, et on peut donc avoir une mémoire anarchiste comme une mémoire communiste de la commune, c'est pas gênant. Et donc, à partir des années 2000, c'est plutôt dans les milieux anars que l'on trouve des références à la commune, que l'on trouve ce retour. Et moi, je le vois pour avoir étudié les graffitis. Il y a beaucoup de graffitis qui accompagnent les mouvements sociaux et dont on sait que ça s'inscrit, c'est un répertoire d'action plutôt des anarchistes qui font référence à la commune. Donc ça reste très présent. Cette mémoire de la commune. Et là, elle est ressortie très présente dans le mouvement des Gilets jaunes. Elle était déjà là pendant le mouvement Nuit debout. Elle est présente dans le mouvement des Gilets jaunes parce que finalement, les questions qui composaient la commune et ce que Jacques Rougerie appelle le questionnement libertaire de la démocratie, c'est-à-dire comment, ok, on est obligé d'avoir une démocratie représentative, mais comment faire pour que le peuple y soit quand même souverain? Et ces questions que la commune se sont posées, et ce sont des questions que les Gilets jaunes se sont posées aussi. Et donc, les questions semblent très actuelles, même si ce n'est évidemment pas le même contexte. Et comme là, ça se percute avec les 150 ans, vous pensez bien que ça a tendance à mettre la commune au devant de la scène.
On peut même voir donc la mairie de Paris actuelle, qui n'est pas une héritière directe, loin de là, de la mairie de la commune, vouloir faire dans les mois qui viennent un véritable hommage à la commune. Je ne sais pas si ce n'est pas une perversion aussi du retour de l'histoire d'imaginer les socialistes du XXe siècle, du XXIe siècle, être capables de s'emparer de ça. Mais en tout cas, il y aura des cérémonies et des dévoilements de plaques de rue et de places 150 ans plus tard.
Ouais. Par contre, Macron ne va pas s'amuser à... Peut-être que l'allemand fera un hommage à Thiers, hein. Finalement, il en est bien le digne héritier.
Digne héritier, il y avait ce matin, hier matin, dans Le Monde, le résultat d'une enquête poussée à travers toutes les vidéos qu'on essaye d'interdire, de diffuser, montrant des policiers toujours floutés et remontant image par image l'impact d'un commissaire des brigades de braves qui sont là pour intervenir et taper sur beaucoup de gens, entre autres des journalistes. C'était le 28 novembre 2020 dernier, pour une marche sur le projet de, contre le projet de loi sécurité globale. Et on pouvait voir cet ordre républicain, certainement républicain, venir taper sur des journalistes d'investigation, des journalistes qui ont d'ailleurs, par certains, été sur le terrain en Syrie et qui, pour la première fois, ont connu des coups de matraque en fer donnés directement par un commissaire de police. Et si vous allez voir ça, c'est assez impressionnant et on peut se poser, oui, quel est l'héritage de la démocratie.
De toute façon, on a commencé cette émission avec cette merveilleuse chanson « La commune n'est pas morte », mais c'est triste, mais Versailles non plus n'est pas mort. Hein. Ben voilà.
Donc nous allons terminer l'émission là. Alors en remerciant énormément notre invitée Mathilde Larère qui a su elle-même faire la conclusion de son interview parce qu'elle est évidemment une grande pédagogue. Alors si vous voulez d'ailleurs la retrouver par écrit, vous pouvez lire deux de ses ouvrages de vulgarisation scientifique. Entre autres, il était une fois la Révolution, Almanach révolutionnaire sur les révolutions 19e et 20e siècle, ou un ouvrage Histoire des luttes des femmes pour leurs droits en France de la Révolution à nos jours qui s'appelle Rage Against the Machisme. Et nous remercions aussi les autres intervenants. Jean-Marc, qui a eu pas mal de petits ratés de micro et qui avait pourtant monté l'émission avec Mathilde. Et Gaël aux chroniques. Et puis évidemment, Claude à la technique. On termine l'émission avec une dernière chant de la Commune. Alors, vu par des artistes largement du 21e siècle, vu que c'est du jazz et du jazz assez récent, avec un spectacle d'Emmanuel Beck et de David Lescaut qui s'appelle « La chose commune ». Vous entendrez aussi Élise Caron, Simon Goubert, Mike Lyde et Géraldine Laurent. On a pris évidemment la chanson de fin pour terminer sur cette émission sur l'héritage et la postérité de la Commune, parce qu'on va écouter « Quand les mauvais jours finiront ».
Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront.
Sweet May, that May the homo talked about. Them daddy lies, daisy, with them sunflowers getting slayed. And Cupid,